Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Nathanaël Picasse, Alexandre Marlier.
Au programme du dossier du jour, une jeune et belle héroïne et un beau mâle qui l'accompagne. Non, ce n'est pas de Sarah et de Nathanaël qu'on vous parle aujourd'hui, mais bien des héros d'Alias.
C'est absolument charmant, je tiens à dire aux auditeurs que Nat et moi sommes absolument magnifiques. Alors Alias est une série américaine de 4 saisons diffusée sur ABC depuis 2001. Les épisodes font en général 42 minutes, sauf le pilote qui en faisait 70. Elle a été créée par J.J. Abrams, qui était aussi le créateur de Felicity et plus récemment de Lost. Alors ce qui est assez drôle, c'est que l'idée d'Alias vient de Felicity, c'est pourtant tout à fait autre chose. Il s'est demandé un jour ce que deviendrait Felicity si elle était engagée par la CIA, et ça donne Alias, une histoire qui n'est pas toujours facile à comprendre, Nat.
Non, ça c'est clair. Alors attention, accroche bien ta ceinture parce que je vais devoir vous expliquer l'histoire. Alors Sydney Bristow est en apparence une jeune femme bien sous tout rapport, étudiante sérieuse, motivée, amoureuse et fiancée, belle et sympathique, j'en passe. Alors bon, jusqu'ici rien de très particulier et pourtant c'est annoncé dans le titre, Sydney a plusieurs alias, c'est-à-dire plusieurs identités. Je m'explique. 7 années plus tôt, la jeune femme a été mise en contact avec les services secrets américains et elle accepte de devenir espionne parce qu'elle a besoin d'argent et après quelques entraînements, elle intègre le SD6, qu'elle croit être une sous-branche ultra secrète de la CIA et elle y travaille sous les ordres d'un dénommé Arvin Sloan et après quelques mois elle se révèle extrêmement douée, on se dit même qu'elle a vraiment ça dans le sang. Bien entendu, cette activité professionnelle doit rester secrète, mais dans le premier épisode, alors que son petit ami la demande en mariage, Sydney ne peut s'empêcher de lui avouer la vérité qu'elle est une espionne et malheureusement le SD6 l'apprend et fait tuer le fiancé, et c'est là que Sydney apprend de nombreuses vérités. Premièrement, le SD6 n'est pas sous les ordres de la CIA, mais au contraire une division de l'Alliance, l'ennemi que Sydney croyait elle-même combattre. Et donc, folle de rage, Sydney décide d'aller s'inscrire à la vraie CIA, et elle devient ainsi agent double, et elle décide donc d'essayer de détruire le SD6 de l'intérieur. Deuxièmement, elle apprend que son père n'est pas du tout l'homme bien rangé qu'elle croyait connaître ou ne pas connaître parce qu'elle n'avait pas une grande relation avec lui. Et il s'avère qu'il est lui aussi agent secret, qu'il travaille lui aussi pour la CIA et le SD6, donc il est aussi agent double comme elle. Et troisièmement, elle découvrira au fil des premiers épisodes que sa mère, qu'elle croyait morte dans un accident de voiture, était aussi une espionne, mais qu'elle travaillait pour le KGB et qu'elle n'est pas morte.
Ça a l'air aussi compliqué qu'X-Files.
Oui, ça c'est vrai que au départ, il faut vraiment bien s'accrocher pour essayer de comprendre. Et ça, en plus, c'est qu'un bref petit aperçu des révélations contenues dans Alias, puisque la série est un véritable condensé de faux-semblants, de jeux de miroir, de personnages au passé lourd, qui ne sont jamais ce qu'ils présentent être. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les ingrédients déjà pour faire une bonne série d'espionnage. Mais J.J. Abrams ne s'arrête pas là, puisqu'il double sa série d'une intrigue fantastique, teintée d'ésotérisme. Et là, en fait, je parle de la quête de Rambaldi. Alors, qui est Rambaldi? C'est un savant du 15e siècle, un mélange de Vinci et de Nostradamus. De Vinci parce que c'est un savant qui a créé beaucoup d'objets qui sont énormément en avance sur son temps, qui sont même en avance sur l'époque à laquelle se passe la série. Et la CIA et le SD6 se livrent une guerre sans merci pour essayer de récupérer les objets que ce savant a disséminés partout dans le monde. Et deuxièmement, Rambaldi est un peu Nostradamus puisqu'il a fait des prédictions, prédictions qui se sont toutes révélées exactes. Et malgré elle, Sydney se retrouve embrigadée dans cette quête puisqu'elle fait elle-même l'objet d'une des prédictions de Rambaldi. Donc bon là, j'espère que vous suivez toujours parce que ça continue. Avec tout cela, Alias est également une série romantique. Sydney est en contact avec la CIA et son contact c'est Michael Vaughn qui est interprété par le très beau Michael Vartan, le neveu de Sylvie Vartan. Et il ne faudra forcément pas très longtemps pour que les deux personnages tombent fous, amoureux l'un de l'autre. Bien évidemment, la série mettra un nombre d'obstacles à leur amour assez conséquent. Et parallèlement à tout ça, Sydney essaye de vivre une vie normale d'étudiante avec ses amis, Fran et Will. sexuelle. Et donc tout ça se mélange, et c'est vraiment un mélange de genres qui est très certainement l'un des points forts d'Alias. Et elle témoigne d'une prise de risque intéressante des scénaristes, qui est quand même d'essayer de briser les barrières qu'il y a entre chaque genre. En général, quand même, les séries sont assez codifiées. On a soit la série d'espionnage, soit la série de fantastique, etc. Et ici, ils mélangent tout.
On se demande parfois comment ils arrivent à faire tenir tout ça en 40 minutes.
Oui, ça c'est sûr.
Ça part un peu dans tous les sens, hein, dans un épisode, ça n'arrête pas une minute.
Et en plus, c'est très bien amené, la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a des fois, par contre, où la mayonnaise ne prend pas. C'est un peu balourd, c'est vrai qu'on n'y croit pas toujours. Il faut bien se dire que Alias, c'est vraiment une ode aux mensonges et aux faux-semblants, aux trahisons. C'est d'ailleurs le message qui apparaît le plus clairement tout au long de la série, c'est que la vérité tue, puisque la majorité des personnages qui apprennent la vérité, soit se font tuer, soit se font punir. Parmi les tués, on a le fiancé de Sydney, ça je l'avais déjà dit, mais il y a aussi la femme d'Arvin Sloan, donc le patron de Sydney, au SD6, la femme de Dixon, le collègue de Sydney. Et alors, parmi les punis, on a Sydney, à chaque fois qu'elle apprend une vérité, elle en prend pour son grade, et Will, son meilleur ami, qui découvre petit à petit les activités de Sydney, mais faut dire qu'il en prend aussi plein la tête. Donc voilà, les personnages se voient dans l'obligation de mentir continuellement à leurs proches, à leurs amis. C'est vraiment le truc où on ment tout le temps. Donc ce qui fait que ça rend les personnages aussi très intéressants, puisque vu qu'ils sont dans l'obligation de mentir tout le temps, mais des fois même pour essayer de préserver leurs proches, ils sont toujours face à des choix très cornéliens. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je la dis pas? Ce qui permet à la série d'évoluer. Pour finir, c'est pas vraiment l'intrigue qui est intéressante. D'ailleurs, bon, mais là, attention, il y a des spoilers. Le SD6 est détruit dès la moitié de la deuxième saison. Mais ce sont plutôt les relations entre les personnages qui sont intéressantes, et les relations évoluent entre chaque saison, même entre chaque épisode.
Autre détail crucial aussi, c'est qu'on ne sait jamais dire qui est gentil, qui est méchant dans cette histoire. Parce qu'il y a des retournements de casquettes et de casaques réguliers dans la série. On ne sait jamais savoir qui est blanc et qui est noir dans l'histoire.
Oui, à la limite, on sait que Sydney est gentil. Et c'est le gouvernement aussi américain qui est gentil. Hein. Ça, c'est un peu une des critiques après que je ferai de la série. Comme quoi, le gouvernement américain et la CIA, tout ça est présenté comme les gentils. Et tout le reste, en général, sont des méchants. Mais bon, la CIA n'est pas non plus à l'abri des taupes et des méchants infiltrés. Bref, je parlais aussi que les personnages donc évoluent et les relations qu'ils ont entre eux évoluent parmi les saisons. Alors je vais parler un petit peu des saisons, puisque il faut bien le dire, et là je crois que je ne vais choquer aucun fan pour dire que les deux premières saisons sont vraiment de très haute qualité et que la troisième saison marque un net coup de frein dans l'évolution d'Alias. Donc la première saison, c'est vraiment celle de la découverte. Sydney apprend qui est son père, apprend qui est vraiment Arvin Sloan, elle découvre la vérité sur le SD6, elle rencontre Vaughn, elle entend parler pour la première fois de Romaldi. Bref, c'est une saison qui jongle habilement entre les trois genres que j'ai cités, l'espionnage, le fantastique et le romantique. Les révélations se font au compte-gouttes et l'intrigue s'étoffe intelligemment, donc c'est une saison vraiment très bien construite et vraiment palpitante. La deuxième saison, elle nous offre la famille dysfonctionnelle dans toute sa splendeur, puisque attention spoiler, la mère de Sydney n'est effectivement pas décédée et elle apparaît, elle se rend à la CIA alors qu'elle faisait partie du KGB avant. Elle se rend à la CIA en disant « Maintenant, je veux collaborer avec vous. » Mais bon, c'est pas très clair tout ça. On ne sait pas vraiment quels sont ses réels objectifs. Mais toujours est-il que sa présence va modifier les rapports entre Sydney et son père. Les personnages vont devenir beaucoup plus adultes. Les relations aussi beaucoup plus dures. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que déjà maintenant, on sent dans cette saison qu'il y a un pan de la série qui commence à s'étioler petit à petit. C'est le pan entre guillemets réaliste, puisque on voit de moins en moins Sydney assister aux cours. Sa vie d'étudiante est complètement occultée, et même ses amis, qui normalement faisaient pas partie de ce monde de l'espionnage, commencent à rentrer dans ce monde-là, même parfois de force. Je crois qu'ils se sont rendus compte, à mon avis, que jouer sur tous les tableaux, c'était pas possible, donc ils ont commencé à éliminer une des parties pour pouvoir quand même étoffer les autres.
Je veux dire quelque chose. Et soit ça te semblera évident, soit ça te semblera présomptueux. En tous les cas, je dois te le dire. Ça ne tourne pas rond. Il y a un moment que j'ai réfléchi, et je ne sais pas ce que je dois faire.
Quoi?
Tu sais très bien ce que je veux dire.
Je voudrais que tu me le dises.
Tu veux que je te dise quoi? Que lorsque tu es en mission, je ne dors pas la nuit. Que lorsqu'on est en débriefing, je dois me forcer à me rappeler pourquoi on est là et ce qu'on est censé passer en revue alors que j'ai seulement envie de t'embrasser.
Oh, c'est vrai que parfois c'est dur de se rappeler exactement de quoi on est venu parler.
Je sais que tu comprends. L'idée qui me rend fou tous les jours, c'est que ces personnes qui nous tueraient si elles nous voyaient tous les deux, l'Alliance, le SD6, Sloane, ce sont les forces qui, au début, t'ont fait entrer dans mon existence. Et là, on atteint le comble de l'ironie.
Qu'est-ce que tu veux? Tu préfères qu'on ne travaille plus ensemble, qu'on s'arrête?
Oui, j'y ai pensé. Et puis je me suis dit, attends, on est excellents ensemble. Et plus nous travaillerons ensemble, plus vite l'Alliance sera anéantie.
Tu suggères quoi, alors?
Vous faites quoi, là? Vous recoulez?
On discute.
J'avais pigé. On a une petite réunion. La sécurité nationale, vous vous rappelez? C'est important pour nos compatriotes.
C'est bon, on arrive.
Quant à la troisième saison, c'est une saison qui va tout redéfinir puisque Sydney va être amnésique pendant 2 ans. Forcément, pendant 2 ans, les personnages évoluent. Quand elle va retrouver la mémoire, elle va se rendre compte que tout a changé. Puisque son père est en prison, Dixon, son collègue, est devenu un des patrons de la CIA, Arvin Sloane est en contact avec la CIA, et Michael Vaughn est marié à une autre femme. Ça sera l'élément de la saison 3, le triangle amoureux classique à la Ally McBeal, qui est pas très habile d'ailleurs, donc Sydney est amoureuse de Vaughn qui est amoureux forcément de sa femme, mais qui aime quand même toujours Sydney, et bien sûr les deux femmes se détestent. À côté de cela, il faut bien dire que les situations d'espionnage deviennent de plus en plus rocambolesques. Ça l'était déjà au départ, mais là, de plus en plus. Et les incohérences vont vraiment s'accumuler. La quête de Rambaldi va devenir très 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 flou, ce qui fait que beaucoup de fans vont complètement se perdre. Et d'ailleurs, même J.J. Abrams va s'en rendre compte, puisqu'en fait il avait laissé cette saison aux mains d'autres scénaristes, et il va se rendre compte de la mauvaise tournure que va prendre sa série. Il a décidé de reprendre les choses en main pour la 4e saison et de corriger le tir. Et d'ailleurs, les critiques avaient même annoncé que s'il ne corrigeait pas le tir, c'était probablement la dernière saison. Et quand on parle d'alias, je crois qu'il est très important, enfin moi je ne sais pas faire l'impasse sur l'actrice principale, Jennifer Garner. J'ai découvert Alias très tardivement, et les seules fois où j'ai entendu parler de Jennifer Garner, c'est ses déboires sentimentaux avec Michael Vartan et son amourette avec Ben Affleck. Mais donc voilà, j'avais un gros a priori sur l'actrice et j'ai été positivement surpris, parce que je la trouve plutôt bonne actrice. Elle a vraiment une palette d'émotions très riche. Elle peut passer vraiment du sourire très désarmant à la rage contenue, au désespoir le plus total. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup.
Alors là, je sens déjà que t'as envie de dire quelque chose, Alex.
Non, mais tout simplement, je voulais te dire que je devais être une exception sur la Terre, parce que je vais être la seule personne au monde à adorer Alias et à détester les deux acteurs principaux. Je ne supporte pas tant Michael Vartan que Jennifer Garner, mais je trouve la série extraordinaire. Donc voilà. Je trouve qu'ils ont tous les deux un regard de veau, et alors lui avec son petit sourire en coin qu'il a à chaque fois qu'il dit quelque chose et qu'il la regarde avec ses yeux globuleux, ça m'agace.
Alors pour ceux qui ont envie de réagir à ça, il y a un forum si jamais. Vous pouvez crucifier Alex en ligne.
Bon, revenons quand même un petit peu à la série. La critique Alias reçoit en général, c'est son manque d'accessibilité. Il faut bien avouer que si on ne suit pas la série depuis le premier épisode, on a vraiment beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe, même si les créateurs ont essayé plusieurs fois de remettre les spectateurs à niveau. Même au milieu de la première saison, il y avait un épisode rappel de ce qui s'était passé, ce qu'on voit souvent en général vers le milieu ou la fin d'une série. Là, c'est vraiment dès la première saison, un peu comme Dead Like Me. Donc ça, c'est assez particulier, mais c'est rien n'y fait. Si on ne suit pas depuis le début, c'est quand même assez difficile.
C'est d'ailleurs une critique qu'on fait très souvent à cette série, et je trouve ça très marrant justement. C'est l'après X-Files, on a l'impression que toutes les séries veulent faire des trucs compliqués, et il faut faire plus compliqué encore qu'X-Files.
Je crois pas ici qu'ils ont essayé de faire quelque chose de compliqué. C'est, à mon avis, c'est le mélange de genres qu'ils ont cherché à faire qui a amené déjà cette complexité à la base. Voilà. Mais à côté de ça, moi je trouve que c'est vraiment une très chouette série. Alors avant de se lancer tête perdue dedans, il y a quand même 2-3 avertissements. Premièrement, il ne faut pas espérer trouver dans Alias un peu de vraisemblable, entre guillemets, puisque c'est vraiment un James Bond au féminin. L'héroïne se retrouve dans des situations toujours catastrophiques, souvent d'ailleurs à la fin de l'épisode, ça forme le cliffhanger. Toujours dans la première saison, il y a ce cliffhanger, moins dans la deuxième saison et plus du tout dans la troisième. C'était vraiment la marque de fabrique de Alias et qui rendait d'ailleurs le truc très sympathique. On avait toujours envie de voir l'épisode d'après en disant mais comment elle va faire pour en s'en sortir. Très souvent d'ailleurs, elle s'en sort de façon très simpliste. C'est assez surprenant. Enfin, il y a plein de fois où je suis là, oh bah, c'est comme ça que ça en est sorti. Bon, d'accord.
C'est vrai que c'est parfois décevant. Le résultat du cliffhanger est parfois décevant. Le fait qu'il n'y en ait plus dans la troisième saison, justement, comme la troisième saison est beaucoup moins bonne que les précédentes, donne moins envie d'aller voir la suite en plus.
Ça, c'est sûr. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sydney, c'est une véritable surdouée. Alors, elle parle un nombre incroyable de langues, presque sans accent. Elle terrasse une armée de soldats musclés avec ses petits poings sans problème. Elle est capable aussi de désarmancer une bombe en une minute chrono. Mais à partir du moment où on accepte ce parti pris, on peut vraiment apprécier Alias. Surtout que c'est un vrai régal de suivre les exploits de Sydney, vu qu'elle doit changer d'identité tout le temps. Elle est toujours habillée comme une Barbie, avec des perruques différentes et tout. Et c'est vrai qu'il y a quelques mâles qui doivent beaucoup apprécier, à mon avis.
Et comme tu disais, c'est caractéristique du genre, parce que tu parlais de James Bond, mais il y avait aussi, par exemple, les Mystères de l'Ouest, où on avait aussi des héros surdoués qui savaient tout faire et qui se déguisaient. Mais bon, là, ils étaient deux, tu vas me dire.
Ici, ils sont tous capables. Hein. Dixon ou Vaughn aussi sont capables de se faire passer un peu pour n'importe qui. C'est très pratique. Alors, deuxièmement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certaines incohérences, mais qui font partie même du scénario. Donc, les déplacements en avion de Sydney sont souvent très courts. Elle traverse la moitié de la planète, mais il n'y a aucun problème. Ça se fait en quelques minutes et surtout, elle ne souffre jamais du décalage horaire. Ça, c'est très pratique. Et aussi, après un combat acharné, elle ne présente jamais aucun bleu. Quoi. Là, elle saigne très rarement, sauf à la fin de la saison 2, après un combat très très violent. Et aussi, il y a les scènes de torture dans Alias, dont il faut parler un petit peu, parce que ça, c'est vraiment de la marque de fabrique.
J'adore le personnage du chinois.
Oui, qui revient et qui à la fin est très drôle, parce qu'il n'arrive jamais à faire avouer les personnages, et qui se retrouve à chaque fois à pigeonner. Ça, c'est assez drôle. Et donc, c'est un personnage qui résiste toujours à la torture. Ils se prennent 50 000 volts, mais ça va, pas de problème. On passe une heure ou deux à l'hôpital, et après on ressort. Ou un petit coup de couteau, on sort de l'hôpital aussi 20 minutes après. Il n'y a pas de problème. C'est très rapide. Et puis aussi, il faut parler des retournements de situation qui sont, bon, légion, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient tous très logiques. Ces avertissements mis à part, je trouve quand même qu'Alias est une très bonne série. Beaucoup l'ont présentée comme une série très innovante, parce qu'on se battait avec 24 heures chrono pour savoir laquelle serait la plus innovante. J'irai pas jusque là, je trouve que c'est vrai que c'est une bouffée d'air frais, ce mélange de genres. Faut dire que la mise en scène, le montage, la musique, tout ça, ça fait très grosse production hollywoodienne. Mais après, je trouve que c'est vraiment une série qui pique dans, tellement dans les genres que je la trouve pas innovante en tant que telle. Je trouve même que c'est beaucoup repêché aussi dans Buffy pour certains passages. Il y a un passage où Jennifer Garner va rêver pour essayer de se rappeler de ce qu'elle a vécu. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup rappelé un épisode où Buffy aussi est coincée dans ses cauchemars. Donc ça, c'est aussi un peu dommage. Ce côté, je repique un petit peu partout. Et puis, c'est vrai, j'en avais parlé tout à l'heure, la façon dont le gouvernement américain est traité, c'est le bon. La CIA, ce sont les bons et le reste, ce sont les méchants. Et ça, c'est un peu dommage, ce côté un peu simpliste.
Très manichéen, oui.
Ouais. Mais sinon, c'est vraiment une série à regarder, surtout les deux premières saisons.
Un de nos contacts de la région de Kandahar a vu quelqu'un répondant à la description de Sloane en compagnie d'hommes dévoués à Ahmed Kabir, le seigneur de la guerre pachtoune qui avait fait ami-ami avec les talibans. Quand ils se sont enfuis, lui aussi est parti. Mais nous ne savons pas où.
Nous pensons que les hommes de Kabir ont conduit Sloane quelque part dans la vallée de l'Helmand. L'année dernière, Sloane a chargé un agent du SD6 d'infiltrer le QG de Kabir dans cette vallée. Cet agent a intercepté des informations concernant des missiles sol-air soviétiques appartenant à Kabir.
Sloane a donc volé à Kabir des missiles, mais aujourd'hui, il se voit. Je comprends pas tout.
Kabir ignore en fait qui est Sloane. L'agent qu'il avait désigné est entré et sorti sans se faire voir.
Qui est cet agent ?
Marcus Dixon.
Aucun des dossiers que nous avons trouvés au SD6 ne décrit cette mission. Et maintenant, vous savez tous ce que Jack savait à ce sujet. Le seul qui pourrait nous aider est Dixon.
Qui a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de coopérer avec nous.
À vous de le faire changer d'avis. On se revoit avec nos analystes pour un topo complet sur Kabir.
Je crois que vous sous-estimez la colère et le ressentiment de Dixon.
Corrigez-moi si j'ai tort, agent Bristow. Mais hier, c'est vous qui étiez en train de nous reprocher de ne pas en faire assez pour trouver Sloane. Si vous ne bougez pas et qu'il nous échappe, il ne faudra vous en prendre qu'à vous.
Contre toute attente, la saison 4 se révèle être une plutôt bonne surprise, tout simplement parce qu'ils décident de faire un peu table rase de la troisième saison, on n'en parle vraiment plus.
D'autant que c'est la saison sur laquelle J.J. Abrams a repris les rênes de la série. Il avait laissé un peu tomber pour la saison 3, et là c'est vraiment, je veux dire, entre guillemets, le maître qui revient dans son château.
Tout
quoi.
À fait, et là, bon, il a quand même fait quelque chose de bien. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que Sydney se voit démissionner de la CIA, et elle va intégrer une division ultra-secrète, l'APO. Surprise, quand même, elle y retrouve tous ses anciens compagnons de jeu, Vaughn, Dixon, Marshall, son père, sa sœur, parce qu'on apprend à la fin de la saison 3 qu'elle a une demi-sœur, et aux surprises, Arvin Sloane, son ennemi juré, le gars qu'elle a essayé de combattre pendant 3 saisons avant, mais ici, elle va se mettre à travailler avec lui, parce que celui-ci, en fait, jure par tous les dieux qu'il s'est repenti et qu'il met à disposition ses contacts. Maintenant, il dit qu'il est vraiment gentil parce qu'il s'est rendu compte qu'il est papa, parce qu'en fait, c'est lui le père de la demi-sœur de Sydney. La paternité aurait changé totalement sa vie, ça y est, il est repenti.
Je sais pas pourquoi j'ai du mal à y croire.
Mais non, ici, il essaye de faire croire. Sydney accepte quand même en se disant, je ne pardonne pardonnerai jamais à Sloane, mais comme ça, ça me permet d'avoir un œil sur lui. Alors, au rayon des points positifs, la saison 4 met de côté toute l'histoire avec Rambaldi, avec ses prédictions et tous ces acteurs fac, parce que ça devenait vraiment très très lourd. Et elle met plutôt en avant la relation entre Sydney et Vaughn, sa sœur et son père. Donc, à nouveau, on remet un peu la cellule familiale au cœur de l'intrigue, ce qui avait disparu à partir de la saison 3, où c'était vraiment que de l'espionnage et des cascades et des choses. Ici, maintenant, Sydney a aussi une vie privée à côté de son boulot, et ça devient un peu plus regardable, un peu comme dans les deux premières saisons. C'était ça qui était sympa. Et puis, ce qui est vraiment de très chouette aussi dans cette saison 4, c'est qu'on retrouve toujours Sydney qui s'habille comme la parfaite poupée Barbie à chaque fois qu'elle doit partir en mission, une perruque blonde, une rouge, une... chaque fois elle a une nouvelle identité, et on voit que d'ailleurs l'actrice Jennifer Garner s'amuse beaucoup là-dedans. Autre vraiment atout, c'est les multiples clins d'œil de la série qui assume son piochage dans d'autres récits, ici surtout dans pas mal de films. Donc la saison 4 se voit truffée de scènes qui rendent hommage à des films comme True Lies, Le Silence des Agneaux, Indiana Jones, James Bond, et c'est vraiment totalement assumé, et c'est vraiment très rigolo parce que c'est vraiment très fort comme clin d'œil. Mais bon, bien sûr, chasser le naturel, il revient au galop. Donc après une petite quinzaine d'épisodes sans nouvelles de Rambaldi, et bien sûr, il refait surface. Nous voilà repartis dans les tripes mystico-religieux. Sydney apparaît plus Buffy que jamais. Elle est la seule à pouvoir sauver le monde. Elle est l'élue. La saison 4 finit d'ailleurs par une vision apocalyptique. Une ville de Russie finit totalement zombifiée. Une autre référence à un autre film, donc avec vraiment les zombies qui poursuivent tout le monde dans le métro. Grosse surprise aussi de la saison, la mère de Sydney se révèle finalement être une mère aimante envers sa fille. Elle essaye de la sauver et donc elle tente le tout pour le tout, mais le tribut est lourd à payer quand même pour cette fin de saison, puisque Nadia, donc la sœur, la demi-sœur de Sydney, sombre dans un coma et atteinte d'une maladie qui semble incurable. Arrive maintenant la saison 5, nouveau drame. Tour à gaillardie visiblement par le succès de la saison 4, les scénaristes semblent s'être remis les doigts dans le fondement. Les bonnes résolutions s'effondrent comme des châteaux de cartes. La série redevient un gros foutoir et ça s'éparpille. C'est pire, elle reprend même les anciens tics et les applique jusqu'à la nausée.
C'est possible d'être pire.
Oui. Non, là, c'est vraiment la catastrophe.
Quand même, J.J. Abrams s'y connaît en, voilà. En flop.
En voilà. Lostery.
Alors, Sloane, finalement, grosse surprise, il se révèle être un gros méchant.
C'est pas vrai.
Si. À la fin de la saison 4, sa fille est dans le coma. Donc, toute la saison 5, il essaye de la sauver. Il arrive à la sauver. Il la tue presque 10 minutes après, quand même. Ça, c'est formidable. Il se dispute avec elle. Il la pousse, pouf, elle se prend un coup de verre dans le cou, elle meurt. Ça, c'est vraiment hyper gros. Ce qui est aussi de très très gros dans cette saison et aussi dans toute la série, c'est maintenant, en fait, on sait que si on voit pas un personnage se prendre une balle dans la tête, on sait qu'il n'est pas mort. Il y a toujours une mise en scène, il va toujours revenir un moment. Début de la saison 5, c'est Vaughn qui se fait tuer.
Ouais.
Et on se dit, ah, ça, on retrouve pas sa moue insupportable
de ses yeux de veau.
Voilà, ses yeux de veau. Comme on ne l'a pas vu vraiment mourir, on sait qu'il va revenir un moment ou un autre. Le seul petit secret qui est assez sympa, c'est que finalement, c'est Sydney était dans le coup, elle savait qu'il n'était pas mort. Mais donc, elle a joué la future mère en deuil, puisque l'actrice était enceinte et qu'ils ont intégré le fait qu'elle soit enceinte dans la série. Forcément, elle pouvait plus faire toutes les galipettes qu'elle faisait avant.
Ça fait très feu de l'amour, finalement, cette dernière saison.
Insupportable. Et il y a vraiment un symptôme, il est mort, mais c'était son frère qui apparaît dans cette série. Voilà, c'est un peu la private joke, peut-être que tout le monde ne comprend pas. Ça a marché une fois ou deux dans les premières saisons, mais là, vraiment, dans la saison 5, c'est plus possible. Vraiment, plus aucun téléspectateur ne peut y croire. Comble de l'horreur, la saison 5 fait à nouveau la place belle à Rambaldi. Donc allez, on est reparti avec trop de mystère tue le mystère.
Est-ce qu'au moins on a une solution à ce fichu mystère de Rambaldi?
Non, moi j'ai vu la fin, je ne comprends toujours rien.
Tu te rends compte, tu vas devoir revoir les 5 saisons pour tout comprendre.
Non.
Conclusion.
On voit vraiment que J.J. Abrams est vraiment fâché avec le concept de cohérence. Bref, avec le recul maintenant, on voit vraiment qu'Alias est une série qui vaut uniquement le détour pour ses deux premières saisons. Et éventuellement la quatrième si vous en voulez encore. Le reste, ce n'est que des débilités profondes. Alors, pour ceux qui voudraient vraiment savoir le fond de l'histoire, je résume, je vais spoiler. Sloane finit immortel, oui, mais emprisonné à vie dans le tombeau de Rambaldi. Donc voilà, pas de chance, il a une sorte de pierre comme ça qui lui tombe sur les pieds, donc il ne pourra plus bouger. Jack, le père de Sydney, meurt en piégeant justement Sloane. Sydney finit par tuer sa mère, parce que finalement, sa mère est la grande méchante de la saison 5.
Juste pour le plaisir.
Voilà. Cohérence, quoi. Bon, on est toujours là-dedans. Heureusement, elle s'en échappe, Sydney, et elle finit par épouser Vaughn, et elle quitte la CIA pour élever ses deux enfants. Elle a deux enfants. La première, elle a appelé Isabelle, et le deuxième, elle a appelé du nom de son défunt père, Jack. C'est beau. Quant à l'histoire de Rambaldi, bon, comme je l'ai dit, j'ai absolument rien compris, et je m'en fous, en fait, finalement.
Je crois que c'est le mot de la fin, et c'est la conclusion.
Tout à fait.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.